Femina.
Rien n'est joué, Lydia Gabor.
Bonjour et bienvenue à vous. L'homme est un animal sociable, pourtant, la plupart du temps, l'enfer, c'est les autres. Alors comment sortir de ce dilemme? Comment vivre des relations qui nous font du bien? Comment trouver la bonne distance sur l'échiquier de nos vies? Et comment retirer le meilleur de nos attentes? Olivier Spindler est notre invité ce matin. Il signe « Vivre heureux avec les autres, une nouvelle approche des relations humaines ». C'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour docteur Spindler.
Bonjour Lydia Gabor.
On va vous présenter, vous êtes psychiatre, psychothérapeute et vous pratiquez une méthode que vous appelez la pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience?
Oui, alors je tiens à dire que c'est une partie, c'est une des cordes à l'arc du psychothérapeute que je suis. La pleine conscience, c'est une approche à la fois millénaire, à la fois nouvelle. C'est millénaire dans le sens qu'on parle de méditation lorsqu'on parle de pleine conscience, mais récemment c'est arrivé donc dans le champ des thérapies cognitives et comportementales, l'idée que on pouvait travailler d'une autre manière que simplement avec le raisonnement, mais plutôt en observant ce qui se passe en nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est de découvrir ce qui est l'observateur en nous qui observe ce qui se passe tout au fond de nous-mêmes.
Au niveau des émotions et des tumultes?
Alors c'est la première chose qui apparaît, disons la première c'est en fait plutôt le corps, la deuxième c'est les émotions, lorsqu'on commence à introspecter, comme on dit, et puis ensuite on peut éventuellement être attentif à ses pensées, on peut observer ses pensées et ainsi prendre de la distance. Et c'est en ça qu'on a vu que c'était thérapeutique, la pleine conscience.
Donc ça soigne en fait?
Ça soigne absolument.
Ouais. Vous dites aussi que le vrai progrès psychologique est lié à une certaine évolution spirituelle. Ce sont des mots un peu obscurs, spirituels.
Oui, c'est vrai que je ne sais pas si on peut prendre un petit moment pour définir ces mots. C'est clair que beaucoup de gens confondent spiritualité et religion. En fait, la religion, c'est plutôt, moi je le vois comme, enfin moi et d'autres personnes évidemment, je le vois comme une étape dans la spiritualité. La spiritualité, c'est un continuum et c'est surtout un développement de la conscience justement. De quoi est-ce qu'on est conscient? Alors au début, on sait qu'on est absolument conscient de rien lorsqu'on est, ou à peu près. Puis petit à petit, on devient conscient de son corps, et ainsi de suite, justement, comme je le disais tout à l'heure, on peut devenir conscient de ses émotions, puis conscient de ses pensées, puis éventuellement la conscience continue à évoluer, puis on devient conscient de qui on est dans l'univers, si vous voulez.
Mais c'est fatigant ça, c'est... d'être conscient tout le temps comme ça, non?
Non, la conscience est naturelle. La conscience est naturelle, mais justement, disons qu'à un certain moment, on peut travailler pour l'améliorer, pour l'approfondir, si on veut, ou augmenter son champ de conscience.
Alors, votre pratique est quotidienne. Vous recevez des gens dans votre cabinet qui arrivent avec des souffrances. Souvent, ce sont des souffrances liées aux relations avec les autres, soit des rejets, soit des déceptions. Et vous introduisez assez rapidement dans cet ouvrage la notion de distance relationnelle.
Oui, c'est-à-dire l'idée, en effet, les gens sont souvent déçus de leur relation, c'est souvent la première chose. C'est une des questions qui vient alors absolument régulièrement dans le cabinet de tout psychothérapeute, je dirais, c'est les problèmes relationnels, que ce soit dans la famille, au travail, dans la vie privée. Et en fait, je m'aperçois que la déception, en fait, ce qu'on appelle une déception, que ce soit une déception amoureuse ou bien une déception amicale, etc., c'est souvent que les gens se sont trompés sur la nature de la relation. Alors j'ai réfléchi longtemps pour essayer de trouver des qualificatifs pour décrire les relations, mais je tournais un peu en rond jusqu'à ce que je me dise que, ma foi, peut-être qu'on pourrait juste préciser la nature des relations en fonction de la distance.
L'implication affective, qu'est-ce que vous entendez par la nature des relations?
En fait, toute relation, c'est un objet virtuel, si on peut dire. C'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main, c'est quelque chose qu'on doit faire exister. Donc une relation entre deux personnes, c'est quelque chose que les deux personnes doivent faire exister. Et maintenant, les deux personnes sont, si l'on peut dire, partie prenante pour définir de quoi est faite cette relation. Quelle est sa nature? Et alors, en fait, le plus simple, à mon avis, pour comprendre, c'est de dire qu'il y a une certaine distance. Il y a des gens qui sont très éloignés, puis il y a des gens qu'on dit proches. On utilise ça dans le vocabulaire commun. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'était de systématiser un petit peu cela. de se dire, ben voilà, un copain, c'est pas un ami, mais alors c'est quoi la différence? Et puis, alors un couple, qu'est-ce que c'est? Et ainsi de suite. Et j'en suis arrivé ainsi à faire un modèle qui a des, comme des échelons, si on peut dire, ou des distances, je le représente sous forme de cercle.
Et des cercles concentriques.
Des cercles concentriques dont je suis le centre, si vous voulez. Chaque personne, chacun de nous, est le centre de son monde. Ça, c'est pas un scandale de le dire. C'est une vérité à la palisse, en quelque sorte.
C'est un peu comme le système solaire, en fait.
Un peu comme le système solaire, voilà. Alors,
il y a des planètes plus ou moins rapprochées.
Plus ou moins rapprochées, absolument, qui gravitent autour du soleil. Alors, ben oui, chacun de nous est le soleil de sa propre vie, si on peut dire. Et autour de nous gravitent des planètes. Alors, il y a des planètes qui sont très, très proches. Une particulièrement proche, si on a de la chance, parce que ça c'est une des choses que je défends aussi, c'est que ma foi, d'avoir ce que j'appelle un super proche, une relation de couple, c'est dans le fond une chance, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. C'est une aspiration que nous avons tous, mais c'est pas obligatoire. Il faut absolument arriver à être heureux sans couple, donc en célibataire, si vous voulez.
Et donc, mais alors là, il y a un cercle qui est vide.
Voilà, il y a un cercle qui est vide, mais on doit pouvoir, ça c'est une des choses que je défends dans le livre, on doit pouvoir être heureux comme ça. Et ça signifie pas être seul. Souvent les gens se plaignent justement en thérapie, ils arrivent en disant « je suis seul ».
Parce qu'ils ne sont pas en couple.
Parce qu'ils ne sont pas en couple. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ça leur souffrance, c'est d'être pas en couple. Et alors, ce que je défends et ce que j'invite les gens à faire, d'où l'idée de vivre heureux avec les autres, c'est de se dire, ma foi, si on n'a pas un couple, on peut quand même être un célibataire heureux. Et un célibataire heureux, c'est quelqu'un qui a un tissu relationnel. Donc il a des amis, que moi j'appelle des amis avec un grand A, il a des amis avec un petit A, il a des copains et il a des connaissances. Et dans la mesure où ce tissu relationnel est plein, est rempli, disons, riche, eh bien on ne doit pas se sentir seul.
Mais sur ce mandat-là, j'ai envie de dire, vous mettez pas les enfants, les parents, je veux dire, ma mère, mon fils.
Voilà, oui, la famille.
La famille, elle figure pas, parce que dans la famille aussi, il y a des distances différentes entre les
absolument.
Membres.
Mais alors là, il y a deux points. Le premier point, c'est que, en fait, ce schéma, donc le modèle que je propose, c'est un modèle qui décrit les relations entre adultes. Entre des personnes qui sont adultes, psychologiquement parlant, pas au sens du passeport hein, ou de l'âge des personnes adultes. Mmh. Donc les enfants, évidemment, du coup, ils peuvent pas être représentés là sur le schéma. Ensuite, la famille. Ben justement, la famille, la question, c'est de savoir si les membres de notre famille, les gens qui en pensent, est-ce qu'ils sont vraiment adultes? Alors, s'ils sont adultes, eh ben, on peut les placer dans le schéma et puis se dire, ben voilà, j'ai des relations avec eux. Et puis, ces relations, elles peuvent être de nature amicale avec un A majuscule, elles peuvent être amicales avec un petit A, etc. Pour moi, c'est très important cela, c'est de pouvoir se dire que c'est pas une raison parce qu'on est proche sur l'arbre généalogique qu'on est forcément proche affectivement ou relationnellement. C'est pas du tout rare que certaines personnes, par exemple, peuvent se sentir très très proches d'un cousin. Donc se dire, ah ben oui, tel cousin, telle cousine, c'est un ami avec un A majuscule. Et puis ma foi, les parents, par exemple, les relations se sont un peu distendues parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, parce que on voit la vie différemment, etc. Et donc, il reste une relation qui peut être une relation de cœur, on dira, mais qui, au niveau pratique, est une relation assez éloignée.
Mais est-ce que les deux personnes, enfin les nombreuses personnes impliquées dans un schéma comme ça doivent avoir la même image, le même degré? Vous voyez, peut-être que moi je considère quelqu'un un ami avec un grand A, mais peut-être que cette personne me considère plutôt un ami avec un petit A. Alors comment est-ce que ça peut fonctionner? Vous voyez, c'est là peut-être qu'il y a une différence d'attente.
Oui, absolument. Moi je dirais que c'est surtout à chacun de nous de savoir quelle relation il vit. On n'est pas obligé de la définir explicitement, si on peut dire, sauf la relation super proche peut-être. Mais les autres relations, je dirais que ça se négocie de même que la distance physique dans un cocktail, dans une réception. Quand vous parlez avec vos amis, ben vous tenez à une certaine distance, puis cette distance se négocie. Alors on sent très bien qu'il y a des gens qui sont parfois invasifs, qui se collent à vous, et puis vous avez envie de reculer. Ou bien il y a des gens qui sont au contraire très très distants, et puis c'est vous qui approchez, et puis la personne recul, enfin ça se négocie à deux dans le non-verbal, si on peut dire. Donc moi je dirais que, à part la relation super proche, les autres relations, ça se négocie un petit peu dans le non-verbal. Maintenant, on peut imaginer que les gens qui auront lu le livre pourront le faire explicitement, ça je ne sais pas, on verra.
Ils pourront faire poser le voilà. Schéma sur
la table et puis dire, alors pour toi, où est-ce que je me situe? Oui, peut-être. Oui.
Encore une dernière question avant un premier disque dans l'émission. Vous parlez adulte, qu'est-ce que ça veut dire adulte? On est tous adultes dans certains certains domaines et puis moins adultes dans d'autres.
Oui, alors évidemment, parfois c'est un peu sous-entendu par le contexte, j'ai pas besoin de préciser, mais en général, ce dont je parle effectivement dans le livre, c'est adulte au point de vue, ce qu'on appelle psycho-affectif. C'est donc adulte dans la manière de gérer les relations.
C'est-à-dire déjà accepter la distance relationnelle. Parce qu'en général, dans certains types de relations, dès qu'on parle de distance, pas bon.
Oui, exactement. Parce que, évidemment, sous-entendu, distance, ça veut dire grande distance. Mm-hmm. Alors que moi, j'inclus dans le modèle qu'une distance peut être très très proche. Effectivement.
Mais il y a quand même de la distance.
Mais il y a quand même de la distance. Ben, sinon, on est dans la fusion.
Et donc,
que tout le monde est d'accord que la fusion, c'est pas bon. Justement, la fusion, c'est pas adulte. Être adulte, c'est être un individu autonome qui n'a pas besoin d'une personne en particulier, par exemple. Alors là, je sais que je vais choquer des gens, mais peut-être qu'on va en parler plus approfondie, de manière plus approfondie.
Vous voulez une personne de référence, vous voulez, dans sa vie, qui
oui,
est un pivot.
Oui, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que même la relation que j'appelle super proche, en fait, j'ai pris bien garde de créer un néologisme pour pas mettre des malentendus, parce que si j'utilisais le mot couple, chacun a son image de couple. Si j'utilise le mot partenaire, là aussi, c'est un peu du langage commun et ça dit pas exactement ce dont je veux parler. Donc, la relation super proche, ça, c'est une relation qui, entre deux adultes, n'est pas une relation fusionnelle.
On va définir, grand concept, la relation fusionnelle. Docteur Olivier Spindler est notre invité ce matin. Vivre heureux avec les autres, c'est aux éditions Odile Jacob. Une première chanson dans l'émission. Et ensuite, nous allons retrouver le reportage de Muriel Mera dans un cours de communication non violente. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la première.
Les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif.
Oui, j'aime.
Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche
en une sublime squaw? Oui, j'aime.
Bon, alors nous irons vivre libres dans un pays sauvage. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre et d'un bon coup de botte sonner les serpents à sonnette.
Les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Rien n'est joué jusqu'à 11h sur la première.
tu aimes dans les westerns. Oui, j'aime.
Est-ce que tu aimes Arthur H et M sur Radio Suisse Romande de la Première, où nous allons suivre Muriel Mera qui nous invite dans un stage de communication non violente donné à Genève par Emmanuel Vidic. C'est une méthode qui vise à bien maîtriser la distance avec les autres dans la communication, en étant à l'écoute de ses propres besoins vitaux et des besoins vitaux des autres, en privilégiant le lien, bien sûr. Immersion.
Le besoin en communication non violente, on le met ici, au niveau de notre ventre. C'est ce qui nous meut, c'est une énergie de vie. Alors, c'est ça qu'on va travailler le plus, ce sont nos aspirations profondes. Parce que chaque fois que vous allez vers une personne pour lui dire quelque chose, c'est à partir d'un besoin. Et parfois, les besoins crient tellement fort en nous, mais on en a tellement peu conscience qu'on part au quart de tour.
Sophie et Samuel, vous êtes venus en couple et en fait je vous observe et vous avez l'air d'être très doux et très bienveillant dans votre façon de communiquer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans un stage pour apprendre à communiquer avec moins de violence?
Moi je peux répondre que l'image qu'on donne en public ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans le privé. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de douceur aussi dans le privé, mais ça peut arriver qu'on ait des conflits aussi. On est venu chercher des outils ici pour pouvoir peut-être raccourcir la durée du conflit, pour se réconcilier plus facilement, pour comprendre l'autre, pour que le dialogue soit rétabli plus rapidement.
Parce que surtout de mon côté, en fait, j'ai vraiment du mal à dire les choses tout de suite. Du coup, j'accumule et, comme on dit, je pète un câble. Et je peux rester dans cet état pendant pas mal de temps. Et du coup, il est vrai que ce stage me permet de voir les choses différemment, pas rester pendant des jours, je dis pas que ça dure des jours, mais rester moins longtemps sur la fermeture finalement, parce que moi c'est vraiment une fermeture. Et oui, c'est ça mon problème, c'est que je peux pas me sentir et dire voilà, ouvre-toi et dis ce que tu ressens maintenant. Il faut déjà découvrir ses besoins et ressentir ses besoins. Et c'est pas encore le cas pour moi, j'ai encore un long chemin à faire de ce côté-là.
De la relation, ce qui nous coupe de la communication, ce sont nos jugements sur nous, sur les autres. Et il y a aussi le déni de responsabilité. C'est ta faute. Tant qu'on est ici, on est dans ou toi ou moi. C'est-à-dire qu'on joue un jeu auquel on a pris beaucoup l'habitude de jouer depuis qu'on est petit. C'est qui a raison et qui a tort. Et tant qu'on est là, on n'a aucun moyen de s'en sortir.
J'ai un petit peu un franc-parler qui va des fois trop loin et qui heurte la sensibilité des gens. Et j'aimerais bien avoir la capacité de me rendre compte de ça et de plus prendre en considération la sensibilité de mes interlocuteurs pour pas les agresser. En fait. Souvent, c'est pas mon désir, mais je vois bien que c'est comme ça qu'ils le ressentent à cause de ma façon de m'exprimer. Quand quelqu'un me contrarie un tout petit peu, je vais avoir une réaction surdimensionnée très souvent. Oui, je pense que ça va toucher chez quelque chose chez moi qui me met automatiquement sur la défensive. Donc je pense que j'ai besoin de me sentir toujours fort et c'est une erreur. Je ferais mieux d'accepter des fois d'être un peu plus doux.
Bonne nouvelle. Au niveau des besoins, il n'y a pas de conflit. Il y a des conflits au niveau des stratégies qu'on prend pour les satisfaire. Et ce qu'on va faire, c'est se rejoindre à ce niveau-là, au niveau des besoins. Et nous allons, ce que nous appelons en communication non-violente, nous allons danser. C'est-à-dire, je vais écouter tes besoins et je vais te demander d'écouter les miens. Et puis, ce ne sera plus une stratégie unique, ou toi ou moi, à l'exclusion de l'un ou de l'autre, mais ce sera et toi et moi. Mais ça veut dire faire assez de place en soi pour pouvoir accueillir ce qui se passe chez l'autre. Et ce processus, je ne l'utilise que si et seulement si Je veux privilégier le lien par rapport au résultat que je veux obtenir.
C'est moi qui, après quelques rebondissements dans ma vie, ai ressenti en moi que j'avais besoin de me mettre en lien avec ce qui était vivant en moi.
C'était quoi les rebondissements ?
Ma foi, c'était un divorce extrêmement pénible où j'ai perdu le contact de mes enfants, que je ne vois plus depuis 12 ans. Et pendant 10 ans, j'ai bouquiné des livres, entre autres, de la CNV. Et il y a 2 ans, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je passe à la pratique.
Et ça vous permet de renouer le lien avec vos enfants, oui ?
Je l'espère. Je l'espère, j'ai une petite piste qui date de quelques jours où j'ai réussi à me remettre en contact avec mon fils en lui proposant de reprendre le train en route. Est-ce que c'était la façon de m'exprimer, mon intonation, je ne sais pas, mais à mon plus grand bonheur, il a accepté en tout cas d'y réfléchir.
À d'y réfléchir.
Il est favorable, mais je lui laisse l'initiative. Je ne veux pas lui forcer la main de quoi que ce soit, lui dire tel jour, telle date, machin. Le lien m'est plus important que le fait de pouvoir fêter son anniversaire à tel jour, telle date. Et de favoriser et de maintenir le lien comme premier objectif, avant de vouloir obtenir quoi que ce soit d'autre, fait en sorte qu'il y a lien, qu'il y a communication.
Il a quel âge ?
Il va avoir 22 ans. C'est pour l'occasion de son anniversaire que j'ai fait cette proposition.
Ah, donc vous ne l'avez plus vu depuis qu'il avait 10 ans ?
Qu'il avait 9 ans. Ouais, ça fait 13 ans, en fait. Il avait 9 ans. Ouais.
Et là, quand vous dites, je ne sais pas si c'est ma façon de m'exprimer, mais en tout cas, il est ouvert, ça veut dire que vous aviez déjà fait la proposition et que ça avait été refusé ?
J'étais dans l'exigence. Et peut-être que là, je suis parvenu à pouvoir me mettre en lien plus que à cœur avec lui.
Vous lui avez exprimé vos besoins ?
Oui, j'ai exprimé mes besoins. Besoin de lien, besoin de partage, besoin d'échange et de soutien. Ouais.
Et ça fait quoi de dire à son fils, donc de se mettre à nu devant lui, ben voilà, j'ai besoin de lien, j'ai besoin de partage ?
Ça me faisait d'abord peur. Wow, puis en plus, ça m'émeut maintenant. Mais c'est vrai que j'avais peur de prendre ce téléphone pour l'appeler. Mais ce que ça fait, mais bon, ça me... C'est un énorme soulagement. Je sens qu'il y a un embryon de lien qui s'est renoué.
Très beau témoignage au micro de Muriel Mera dans une réalisation de Christian Morero qui est en régie ce matin avec nous, avec Dr Olivier Spindler qui signe « Vivre heureux avec les autres ». Là, on avait un moment très émouvant de ce que ça peut vouloir dire « Vivre heureux avec les autres ». Vous avez des réactions face à ce reportage ?
Oui, disons, je dirais qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ce qu'est exactement la communication non-violente, sauf je repère qu'il met l'accent sur l'écoute. Et la communication non-violente met beaucoup d'accent sur l'écoute, c'est un de ces points que je trouve extrêmement fort. Et pour moi, ce qui est très important là-dedans, c'est... En fait, on parle ici de nouveau d'être adulte. Être adulte, c'est écouter. Écouter ce qu'on a au fond de nous et écouter ce qu'il y a au fond de l'autre. Et c'est ça qui donne de la richesse, de la profondeur aux relations. Tant qu'on n'est pas dans l'écoute, on est dans les relations superficielles, un petit peu par définition, on pourrait dire. C'est la communication, je parle, mais j'écoute pas. Alors la communication non-violente met beaucoup d'accent là-dessus, ainsi que sur tout ce qui empoisonne les relations, tout ce qui fait que les relations deviennent toxiques. Et ils ont une très jolie métaphore, donc on doit à Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non-violente, lui parle d'attitude chacal ou d'attitude girafe.
D'accord.
Girafe voit de haut, et puis le chacal, il est très, très animal,
le nez dans le guidon.
Agressif, le nez dans le guidon, etc. Donc, sans le dire, en fait, il parle de gens immatures et de gens matures de nouveau.
Mais est-ce que ça veut dire que la communication non-violente vise à ce qu'il n'y ait plus du tout de conflit ?
Alors sûrement pas, c'est l'objectif qu'on poursuit, c'est de résoudre les conflits d'une manière adulte, moi je dirais, de résoudre les conflits sans violence. Mais conflit en français, d'ailleurs en italien aussi, je pense que dans d'autres langues ça doit être pareil, en tout cas dans les langues latines, conflit a 2 sens. Il y a le sens de désaccord, et puis il y a le sens de guerre, la bagarre. Alors je dis toujours, le conflit est inévitable, c'est la bagarre qui est évitable. Par exemple, si dans une pièce, il y a quelqu'un qui a chaud ou froid, et puis qui dit, ah, il faudrait ouvrir la fenêtre, ou bien il faudrait fermer la fenêtre, etc. Puis l'autre personne lui dit, ah non, non, moi je suis bien, moi il n'y a pas de problème pour moi. Alors ça, c'est
alors,
typiquement,
qu'est-ce qu'on fait, là ?
C'est un conflit. Alors, voilà, les gens immatures vont entrer dans la confrontation, vont, soit il y en a un, par exemple, qui abdique, ça c'est la première chose immature, c'est d'abdiquer, c'est de dire bon, oui, d'accord.
Pourtant, ça a l'air d'être un comportement évolué que de pouvoir renoncer, non? Ou pas, finalement?
Alors, si c'est le déni de soi-même, de son besoin, c'est là aussi que la communication non violente intervient. Ça permet à la personne de s'interroger sur elle-même, puis de se dire, et moi? Est-ce que j'ai chaud ou est-ce que j'ai pas chaud? Est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien? Et puis de s'exprimer d'une manière non violente. Tandis que la personne immature qui dit bon, qui n'entre pas, qui refuse d'entrer en confrontation, je dis ça exprès pour éviter de dire d'entrer en conflit, d'entrer en confrontation, eh ben ça c'est une attitude immature. Alors le degré suivant, c'est justement d'entrer dans la confrontation. C'est mieux que de le dénier, que d'abdiquer, si on veut dire. On appelle ça l'abdicateur conciliant en psychologie. Donc d'entrer en confrontation, puis de dire non, moi je voudrais qu'elle soit fermée, et puis etc. Bon, c'est déjà mieux que le déni, mais on n'est toujours pas dans l'attitude d'adulte. L'attitude d'adulte, ça consiste par exemple, dans un premier degré, dans un premier temps, de marchander.
De négocier, donc.
Alors, c'est pas tout à fait négocier encore. Mmh, marchander, c'est de dire, bon, je te donne ça si tu me donnes ça.
C'est-à-dire, là, ça serait quoi? On ouvre 5 minutes et tu me payes un café?
Voilà, par exemple. Ou bien, bon, alors cette fois, on ferme la fenêtre. Mmh. Mais alors, demain, c'est moi qui décide. C'est moi qui en décide que la fenêtre est ouverte. Voilà, c'est des exemples. Hein. En revanche, négocier, ce serait de pouvoir écouter le besoin de l'autre. Ou bien d'écouter son besoin et de le poser sur la table. Dans la communication non violente, on dira, par exemple... écoute, moi je me sens un peu fatigué aujourd'hui, je me sens un peu faible, je sens que si on ouvre la fenêtre, je vais attraper un rhume. Bon, et alors l'autre personne peut dire, bon, alors d'accord, voilà, ou bien, ouais, bon, écoute, est-ce que tu pourrais pas aller dans la pièce d'à côté, ou bien peut-être tu pourrais mettre un pull, puis on pourrait ouvrir la fenêtre quand même, enfin voilà,
non, mais une manière adulte de... Le temps qu'on perd pour une fenêtre.
Encore une fois, c'est un exemple, hein. Oui, il y a des choses plus graves où on peut faire ça, là c'est vraiment pour l'exemple.
Oui,
hein.
Pour l'exemple.
Bien sûr, mais une chose plus grave où ça vaut la peine de prendre ce temps-là, par exemple, c'est quand il y en a un qui veut sortir et l'autre qui veut pas sortir. Un qui veut rester à la maison,
là,
l'autre qui veut...
Là, vous parlez dans le cadre du couple aussi.
Voilà, par exemple, dans un couple ou dans l'amitié aussi. Si on est deux amis ensemble en vacances, et puis il y en a un qui décide, qui voudrait aller à la plage, puis l'autre qui voudrait aller dans un musée, ben, une manière adulte de gérer ça, c'est de négocier. Mais souvent, les gens, surtout les gens immatures, vont entrer dans le conflit, dans la bagarre.
Alors, justement, vous évoquez beaucoup ce côté de l'immaturité. Définissons ce que ça veut dire, parce que comment est-ce que je sais si je suis mature ou immature? Et peut-être justement qu'il y a des domaines où je suis mature et d'autres où je souffre de certaines immaturités. Donc, comment on définit les gens immatures, par exemple?
Alors, ça dépend. En effet, comme vous dites, il y a plusieurs domaines. Donc, ça dépend par rapport à quoi. Alors, c'est pour ça, c'est déjà bien de préciser immature sur le plan psycho-affectif.
Mais c'est un vaste plan.
C'est un vaste plan, c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à le faire tenir dans une seule phrase. C'est vrai, il y a plusieurs aspects de la question. Un des aspects importants qui rejoint, donc, dont je parle dans le livre, c'est la manière de gérer les conflits. On vient de l'évoquer. Un autre aspect, c'est comment on gère les relations triangulaires. Alors ça, c'est peut-être un peu barbare et un peu psychologisant comme terme. Les relations triangulaires, c'est lorsque il y a 3 personnes dans une relation. Moi, l'autre, et puis un copain, une amie, un collègue, etc. Alors si j'ai un problème avec... on va dire ABC, par exemple. Hein. Alors j'ai un problème avec C, mais je m'entends bien avec B. Alors, les personnes immatures, par exemple, auront de la peine à supporter que les B et C s'entendent bien, par exemple. Tandis que si je suis mature, ben, si B et C s'entendent bien, moi je peux très bien ne pas m'entendre avec C et m'entendre très bien avec B.
Ça, c'est une bonne distance.
Ça, c'est une bonne gestion de la relationnelle, disons, des problèmes relationnels. Et donc, une personne immature, par exemple, aura tendance à, comme elle s'entend pas avec C, de passer par B pour lui faire des messages. Mmh. Ah, tu pourrais dire à ton père, à ta mère, que ceci, que cela, ou bien, ah, tu pourrais dire à une telle dans un bureau, que ceci, que cela. Et donc, quand on est adulte, on va régler ces problèmes, ces questions de un à un. C'est de personne à personne. Ça, c'est un premier critère.
Mais vous faites toute une liste, j'en ai sélectionné. Donc, les personnes immatures qui sont tout le temps dans la séduction ou le favoritisme, dans la versatilité, aussi, ils sont entre très susceptibles et très narcissiques, assez manipulatoires. Donc, vous donnez vraiment une liste de types de comportements.
Oui, moi, je ne pensais pas du tout. Enfin, ça n'est pas un livre sur les personnes immatures, mais comme c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment, donc c'est pas rare, les personnes immatures sur le plan psycho-affectif, cognitif. Hein. J'insiste beaucoup pour dire que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et puis ça n'a rien à voir non plus, ça je crois qu'il faut le dire, avec le fait qu'une personne soit gentille ou méchante. Donc je ne suis pas en train de diaboliser des personnes immatures, mais je suis en train de dire, bon ben, si une personne est immature, il faut en tenir compte dans la relation, et puis automatiquement ça va colorer la relation et ça va faire qu'on doit un peu revoir nos attentes. Alors en effet, des problèmes qui viennent quand on a affaire à des personnes immatures, c'est par exemple la versatilité.
Il change.
Il change très vite. Une personne vous dit un jour ah oui j'adore la danse, ou bien ah oui j'adore les films comiques, mais ça c'est en fait une séduction, c'est parce qu'elle a saisi que vous-même vous aimez bien les films comiques, etc. Alors pour vous séduire elle vous dit ah oui moi aussi, et puis quelques jours après dans le contexte de la cafétéria, tout d'un coup il y a quelqu'un qui parle d'autre chose, et puis la personne qui venait de vous dire deux jours avant moi j'adore les films comiques, elle dit je déteste les films comiques, que je supporte pas ça, c'est du temps perdu.
Vous
etc.
étiez dans, à notre cafétéria là l'autre jour.
Peut-être.
Mais vous dites aussi que dans le milieu du travail justement, parce que vous analysez un peu ces relations adultes ou immatures un peu dans différentes situations de vie, que souvent les chefs sont des personnes immatures. Parce que est-ce qu'il y a un lien peut-être
entre... C'est un point délicat. Ça.
C'est très délicat. C'est pour ça qu'on
délicat.
Va l'aborder.
Ouais,
est-ce
que ça
veut dire qu'il y a un lien entre une certaine immaturité et une envie de pouvoir?
Alors ça, certainement. Là, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de juste. C'est que la soif de pouvoir, si on peut l'appeler comme ça, c'est quelque chose d'assez immature. Un adulte n'a pas besoin de dominer les autres. Elle peut se sentir très bien dans les relations égalité, comme on dit, d'homme à homme, face à face, à égalité, au même niveau. Tandis que les personnes immatures, c'est vrai, souvent ont besoin de se sentir supérieures, quoi. C'est un critère d'immaturité, si vous voulez. Alors ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point, c'est que les personnes immatures sont souvent agressives. C'est une des manières d'être immature, parce que l'autre manière, c'est celle dont nous parlions tout à l'heure, c'est de se soumettre. C'est aussi immature. Mais l'inverse de cela, le miroir de cela, c'est d'être agressif, c'est de prendre toujours la position haute. Alors ma foi, dans notre société, les personnes agressives ont encore, malheureusement, moi je le dis, tendance à être valorisées, à être validées. Et on trouve que c'est très bien, on trouve que c'est bien. Une personne qui a du caractère, comme ça on dit, il a du caractère. Mais malheureusement, c'est ce qui fait que dans les personnes qui grimpent dans la hiérarchie sociale, il y a souvent des gens qui sont immatures.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de personnes immatures en Occident à notre époque?
Non, j'oserais pas le dire. Non, je suis plutôt optimiste que ça aura tendance à diminuer. Mais pour le moment, force est de constater que c'est pas un critère de recrutement de dire ben, on veut recruter que des gens matures et on veut mettre à des responsabilités que des gens matures. On met souvent des gens, excusez-moi le terme, qui ont des grandes gueules.
Vivre heureux avec les autres encore jusqu'à 11h dans Rien n'est joué avec Olivier Spindler, médecin psychiatre.
Rien n'est joué sur la première.
All of us people sometimes tell lies, and when we do, we simply signify. All got to go, turn back to school. Come people get real now, follow nature's rule. Get your respect, got to be humanized. All got to go, turn back to school. Come people get free now, I follow nature's rule. I don't know if you realize, before you get your respect, got to be on others to be a keeper. They'll call you dreamers and these are people. You better change your groove, don't get in the swing. Find yourselves and do your own three things. I don't know whether you realize, before you get to respect you, got to be humanized. Go, turn back to school. Come people get free now.
us a long time to take a care. The reason why we wasn't away, we didn't understand what it meant to be human. And that's the only way, 'cause we're all human.
Humanized, humanisé, Sola Rosa sur Radio Suisse Romande, la première.
T'es tombé en panne d'essence au milieu de nulle part, alors là t'as le pompon, hein, bravo hein.
Mais attends, ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta faute.
Bon, effectivement, c'était de ma faute, j'ai pas fait le plein. Mais pourquoi? Parce que la jauge est cassée.
Et alors, Loulou, c'est ta bagnole, c'est toi qui es responsable, c'est ton boulot de mec ça.
Bon, elle est cassée, j'y peux rien, c'est comme ça, ça va. Mais attends, eh oh, s'il y en a qui est fautif, c'est toi ma vieille, hein. Madame, vous voulez prendre des routes secondaires? Et regarde, les routes elles sont tellement secondaires que même les chevreuils la connaissent pas.
Mais je fais toujours ce que tu veux, ça me gonfle, Alex.
Jean, tu râles tout le temps quand on fait des choses ensemble. Tu sais quoi? Ton problème, c'est que tu es individualiste.
Mais alors, y'a pas de mal à ça?
Pas dans un couple, Loulou.
Et pourquoi on s'engueule, au fait, là?
Je m'en rappelle plus.
Mais ça va pas être important, hein.
Bah non.
Qu'est-ce que t'as à me surveiller, là? T'as pas un truc de fille à faire?
Bah, t'es pas gentil, moi j'aime bien te regarder à l'œuvre.
Attends, quand Beethoven a créé sa 9e symphonie, est-ce que tu crois que Madame Beethoven était là à le surveiller?
T'en sais rien, peut-être que sa femme, eh ben, elle a vécu dans l'ombre et qu'elle s'est occupée de tout, de toute la tendance de la maison. Peut-être qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Lui, finalement, il était...
Mais il était sourd! Et ça, c'est une chance énorme.
Ouais. Un gars et une fille, et là on peut commencer à parler des relations super proches puisqu'ils sont en couple. Vous faites tout un chapitre très intéressant dans l'engagement affectif. Bon, la première question qui nous vient en écoutant ça, c'est est-ce qu'on peut évoluer dans l'immaturité ou pas?
Ah ben, bien sûr.
C'est l'espoir, hein, quand même.
C'est l'espoir, absolument. Et puis, c'est disons, la quintessence du travail en psychothérapie, c'est d'aider les personnes à évoluer. Alors, bien sûr... Il y a des psychothérapeutes qui voient pas ça comme ça, mais moi je revendique cette idée-là, c'est que un vrai travail psychothérapeutique, c'est un travail d'évolution personnelle. Et effectivement, de passer d'immature à mature, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire.
Ça veut dire quoi pratiquement? C'est lâcher certains mécanismes de défense, c'est lâcher certains espoirs, c'est ne plus croire au Père Noël.
Ouais, c'est beaucoup de choses, hein. Disons, ça dépendra de la problématique amenée par la personne. Mais quand on parle de relations, c'est justement, par exemple, d'apprendre à gérer la distance. C'est absolument flagrant que les gens immatures sont dans le tout ou rien. T'es mon ami ou t'es pas mon ami, t'es avec moi ou t'es pas avec moi. On est en couple ou bien on n'est pas en couple, on se quitte, voilà, il n'y a pas de milieu possible.
Vous dites d'ailleurs que les couples formés par des personnes immatures finissent par se séparer assez régulièrement.
Oui, parce que alors là, c'est quelque chose d'un peu dur à entendre. J'espère que je fais pédonner pas trop de monde, mais il y a beaucoup de couples qui ne sont pas super proches au sens où je l'entends.
Alors ça, c'est très intéressant. Donc ils sont très proches, mais ils sont pas en fait.
Voilà, c'est ce qu'on disait.
Engagés.
On évoquait tout à l'heure. Ils sont plutôt dans la fusion. Ils sont pas. Il ne reste pas des individus. Alors souvent, c'est une relation asymétrique où il y en a un qui est un abdicateur et puis l'autre qui domine, par exemple. Tandis que lorsque on a affaire à deux personnes adultes, il n'y a pas d'abdication, il y a toujours une négociation dans toutes les choses de la vie quotidienne, que ce soit des choses profondes ou que ce soit des choses superficielles. Donc, il y a des couples, malheureusement, qui un jour doivent se constater qu'ils ne sont plus que des amis avec un petit a, comme je dis, ou bien des copains. Les copains, c'est des gens qui, Oui, ils vivent ensemble, mais ils font plus grand-chose ensemble. Ils ont plus d'intérêts communs. Ils vivent chacun des vies parallèles, etc. Alors ça, malheureusement, ben, c'est déjà plus un couple au sens où je l'entends. C'est des gens qui sont pas super proches. Super proches, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est là qu'on doit évoquer la question de l'immaturité affective. Pardon, de l'engagement affectif. Oui.
Oui.
Donc je crois que c'est ça que.
Alors justement,
vous vouliez...
définissez-le cet engagement et l'engagement comment vous voyez affectif, le couple. Voilà.
Alors l'engagement affectif, c'est quelque chose de très très important dans le sens que c'est une étape forte à franchir dans une relation. Si vous voulez, quand on est adulte, être adulte c'est être autonome, c'est être indépendant sur le plan psycho-affectif encore une fois. C'est donc j'ai pas besoin des autres pour mener ma vie, j'ai besoin de personne pour mener ma vie, je peux me suffire à moi-même. Jusqu'à un certain point, évidemment. Mmh. Parce qu'on parlait qu'il faut quand même un tissu relationnel. Mais un ami, par exemple, même avec un ami avec un A majuscule, c'est quelqu'un qui vous soutient affectivement, mais vous n'avez pas de responsabilité dans la vie de cet ami. Même avec un A majuscule. Tandis que dans un couple, l'engagement affectif, tout d'un coup, quand il y a l'engagement affectif, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'autre personne. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de sa vie et vous acceptez de mettre un petit peu en veilleuse une partie de votre autonomie, de votre liberté totale. Donc dans le couple, d'ailleurs on l'a entendu dans les extraits tout à l'heure, dans le couple on peut plus revendiquer d'être seul. D'être autonome, complètement autonome. On doit absolument tenir compte de l'autre. Et c'est ça que j'appelle l'engagement affectif. Si vous voulez.
Ça vous tient très à cœur,
ça me tient
tout
vraiment.
Et j'avoue qu'au moment où j'ai découvert ce chapitre, je me disais, mais attends, d'un côté, il parle d'autonomie, il faut arriver à être heureux tout seul. Oui. Et de l'autre côté, quand on est en couple, on est quand même un peu responsable du bonheur de l'autre. Alors, je m'y retrouvais plus.
Voilà, oui. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une étape très importante. Donc, il y a, si vous voulez, la situation qu'on disait tout à l'heure, célibataire. Être célibataire, c'est être complètement autonome. Autonome, adulte, avec un tissu relationnel riche. Mais maintenant, l'engagement affectif, c'est tout d'un coup, je choisis une personne et je décide, si on peut dire consciemment, idéalement consciemment, d'être un petit peu, mon bonheur dépend un peu de cette personne. Et le bonheur de cette personne, ben, j'accepte qu'il dépend un peu de moi.
Ça veut dire que je renonce aussi à des comportements qui peuvent faire souffrir. Je suis attentive aux effets de mes paroles,
voilà,
de mes
actes.
C'est
une prise de responsabilité énorme dans la relation, effectivement. Et cette dépendance, mais c'est pas une dépendance, justement, au sens immature, de la codépendance. Mmh. J'ai volontiers évité le terme, exprès évité le terme dans le livre. Donc, non, c'est une responsabilité. Je peux pas revendiquer que ce que je fais, par exemple, quelqu'un dit, cet été, j'ai Mathieu qui m'a invité à passer un mois sur son bateau, alors j'ai décidé d'y aller. Alors, face à un ami, je peux très bien dire ça comme ça. L'ami peut pas dire, oh, ça m'embête que tu ailles sur un bateau pendant un mois. Mais face à, dans un couple, je peux pas dire ça comme ça. Je dois dire, est-ce que ça t'ennuie pas trop si je vais un mois? Est-ce que tu pourrais comprendre que ça me ferait plaisir, etc.? Donc, je dois tenir compte que ma décision, par exemple, d'aller passer un mois sur un bateau avec un ami, ça va avoir une influence sur mon partenaire.
Donc, il y a dans le cadre d'une relation super proche des attentes légitimes.
Absolument.
Vous
oui.
n'êtes pas adepte de cette philosophie qui dit pas d'attente, pas de déception, pas d'attente.
Voilà, au contraire, je suis très révolté, si on peut dire ça comme ça, contre même certains collègues qu'on entend dire « il faut rien attendre ». Mais c'est terrible ça, une relation dans laquelle on n'attend rien, c'est une relation sèche, il n'y a rien qui s'échange. Donc il faut au contraire avoir conscience de ce qu'on échange et puis qu'il y a des attentes absolument légitimes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, des motivations à écrire ce livre, c'est qu'on reçoit régulièrement en thérapie des personnes qui viennent en disant, après plusieurs déceptions, qui viennent en disant « Oh, je me demande si j'attends pas trop, si je suis pas trop exigeant ou trop exigeante, ou mes copines me disent que je suis trop exigeante. » Alors moi je dis « Bon, que face au couple, au contraire, il y a des attentes qui sont légitimes. Mais effectivement, si on les met... Enfin, ces attentes que j'estime légitimes, là, vous pouvez le voir dans le livre, on peut encore l'évoquer un petit peu, c'est tellement haut qu'effectivement, je suis d'accord qu'on ne peut pas l'exiger de personne. Et c'est pour ça que je me permets de dire que la relation super proche, c'est quelque chose de très rare et de très précieux et qu'on doit bien le considérer comme quelque chose d'optionnel, comme une grande chance que la vie nous offre si on a la chance de vivre cette relation super proche. Mais on ne peut pas dire « j'y ai droit, je le veux et il faut que je l'aie ».
Et donc, ça voudrait dire qu'elle est très très rare parce qu'il faut que deux personnes de même... je ne sais pas comment dire, développement ou de même maturité, puissent se rencontrer et échanger un peu les mêmes valeurs par rapport à cette relation super proche.
Oui, c'est cela. Et puis surtout s'engager affectivement. Et donc, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est très important de valoriser la relation d'amitié avec un A majuscule, qui est une relation qui est très très proche du super proche, si on peut dire, sans engagement affectif. Mais dans l'amitié avec un A majuscule, il y a de l'amour. Il peut y avoir de l'amour, il peut même y avoir de la tendresse. Et je trouve que c'est pas du tout à négliger. Et à ce moment-là, l'étape d'après qui consiste à faire le vrai pas de l'engagement affectif, mais ça, ma foi, on peut pas l'exiger de quelqu'un, encore une fois.
Ça vient.
Ça vient ou ça vient pas. Et disons qu'on peut en parler.
Vivre heureux avec les autres, encore pour quelques minutes dans notre émission. On a appris beaucoup de choses ce matin grâce à vous, Olivier Spindler. Le temps d'une chanson et nous allons essayer de définir l'écologie relationnelle.
Le sentiment t'attrape, t'attache et ne te relâche. Lorsqu'il estime avoir accompli sa tâche, il ne vient pas pour rien, mais vient trop souvent. Il vient parfois en bande, et quelle bande de cons. Encore quand je suis contente, celui-là je comprends, mais parfois hésitante. C'est lui qui me reprend. Peut-être vient-il comme une simple leçon, celle de n'avoir à tout une explication. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, arrête de chercher. Les moi, et moi, et moi, et moi, et moi viendra toujours jouer. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, arrête de chercher. Moi et moi et moi et moi et moi viendra toujours jouer. Et pire il y a, c'est quand il vient chez toi, seulement chez toi, te donne ses cours privés, et laisse au désespoir celui d'à côté, sans même s'apercevoir qu'il nous a dérangés. Moi et moi et moi et moi et moi viendra toujours jouer. Et toi et toi et toi et toi et toi arrête de chercher. Les moi et moi et moi et moi et moi viendra toujours jouer. Il ne pensera jamais être celui de trop. Il est un peu gonflé mais pense tout haut qu'il faut pas s'en aller, qu'il fait son boulot. Et que quand il partirait, on le regretterait.
Les mois, le groupe Alice, groupe valaisan que vous pourrez écouter le 23 juin lors de la fête de la musique à Monté. Voilà, docteur Spindler, les dernières minutes pour évoquer quelque chose qui vous tient aussi à cœur, l'écologie relationnelle. J'aime bien ce rapport entre les relations et l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écologie relationnelle?
On pourrait dire que c'est par exemple d'avoir des relations saines, la notion de salubrité.
Dites-moi plutôt ce qui n'est pas sain, comme ça on verra très vite ce qu'il faut éviter.
Les relations de pouvoir, les jeux de pouvoir, les toxiques relationnels, j'ai fait tout un chapitre dans le livre qui parle des toxiques relationnels, c'est-à-dire c'est des choses qu'on fait, qu'on dit et qui empoisonnent les relations. Alors c'est là qu'il y a un parallèle avec l'écologie.
Des petites critiques, des choses négatives, des choses comme ça.
Exactement. Mais ça peut aussi être des conseils non sollicités. Ça met tout de suite un malaise quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre,
tu devrais
faire ceci, tu devrais faire cela, etc. C'est des petites choses qu'on fait avec beaucoup de complaisance dans la vie, mais si on n'y prête pas attention, ça empoisonne les relations. Et donc je propose de l'écologie, c'est de faire très attention à tout ce qui peut empoisonner l'atmosphère relationnelle.
Vous parlez aussi déjà de ces émotions négatives en soi. en soi-même déjà, essayer de s'en libérer ou d'en être conscient dans son propre fonctionnement interne.
C'est-à-dire les gestes à partir du moment où on a conscience que certaines attitudes, certaines paroles peuvent empoisonner l'atmosphère relationnelle, encore une fois, la première chose à faire, c'est de s'en abstenir soi-même.
Les repérer d'abord.
Voilà, il faut les repérer. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une liste et de pouvoir faire attention. Et donc ça, c'est aussi d'ailleurs un critère de maturité affective, c'est de pouvoir être adulte, c'est s'abstenir des toxiques relationnels, s'abstenir de faire du mal et d'envoyer des pics autour de soi, par exemple.
Vous donnez toute une liste là à la page 165. La violence physique, les insultes, la moquerie, les critiques non constructives, les reproches gratuits, les commentaires déplacés. Enfin, il y a toute une liste. Le dénigrement, la non-fiabilité, la calomnie. Bon, ça, c'est vraiment des choses graves,
grave,
lourdes.
Oui, oui.
Il y a aussi des choses plus légères, comme des questions stupides. Excusez-moi pour ce matin.
Il n'y a pas eu de questions stupides, là.
Plein de choses. La bouderie, la contradiction systématique. Vous donnez les cadeaux inappropriés. Bon, des fois, on se trompe. Là, la flatterie, vouloir avoir raison, hein, ça fait partie des toxiques, ça.
Oui, absolument. Bon, en fait, j'ai partagé la liste en deux. Mm-hmm. Il y a une partie que j'appelle absolument inadmissible. J'estime que c'est un devoir citoyen de ne pas le faire. Exactement comme dans la nature, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. En revanche, il y a des choses qui sont plus difficiles à identifier, plus difficiles de s'en abstenir, etc. Alors là, je dis plus qu'il faut essayer le plus possible de les éviter. Mais il y a toute une partie qui devrait être absolument interdite, que ce soit dans les relations de travail, que ce soit dans les couples, dans les amitiés, dans les clubs, n'importe où. C'est inadmissible d'insulter quelqu'un, par exemple, de le dénigrer, toute forme de violence, comme le dit la communication non violente d'ailleurs.
Mais ça veut dire aussi que lorsqu'on le subit, il faut le signaler, il faut avoir ce courage de signaler.
Alors il faut le courage de le signaler, et pour toute cette première partie, j'estime que, encore une fois, c'est un devoir citoyen. Donc même si on n'est pas visé par ces toxiques, si on en est témoin,
il faut le dénoncer.
On doit le dénoncer, oui. Dire à la personne, écoute, ça c'est inadmissible, ça va pas, on peut pas tolérer ça. Donc, dans les relations de travail, par exemple, quand on voit un chef qui humilie une personne, je trouve qu'on ne doit pas tolérer ça, par exemple.
Même si on n'est pas directement visé.
Même si on n'est pas directement visé, absolument.
Donc, effectivement, vous avez raison, c'est comme un engagement citoyen. Et aussi, comment se libérer des déchets relationnels, vous parlez en soi-même.
En soi-même, oui, c'est un petit clin d'œil, oui.
Et vous proposez, entre autres, la méthode de la méditation.
Oui, c'est-à-dire que à l'intérieur de soi, quand on a des ressentiments, quand on a des regrets, quand on a des déceptions, etc., tout ça, on peut considérer que c'est comme des déchets, des relations, des choses qui se sont mal passées dans notre vie, et qu'en méditant, on arrive à s'en débarrasser. Les gens croient qu'on doit les garder, mais non, on peut s'en débarrasser vraiment.
Docteur Olivier Spindler, merci pour cette heure passée ensemble. Vivre heureux avec les autres, une nouvelle approche des relations humaines, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci.
Merci à vous.
Rien n'est joué avec le magazine Femina.
Pour obtenir une copie de l'émission, composez dès maintenant le 026 323 24 24.
François Piton a choisi les musiques ce matin. Christian Morero était en régie et Muriel Mera a signé le reportage. Demain, on se retrouve pour parler d'art-thérapie. Il va être tout soudain 11h sur la première, Les Décodeurs, et belle journée à vous.